Frères et sœurs bien-aimés, dans « Les neiges bleues », un récit autobiographique publié il y a quelques années, Piotr Bednarski raconte avec beaucoup de poésie, de candeur, son enfance polonaise, vécue au cœur de l'enfer du système communiste répressif. À 8 ans, il a été déporté avec sa mère au fin fond de la Sibérie dans des conditions effroyables, ces conditions que savent vous imposer ceux qui veulent votre bien et votre sécurité. Or, l'évangile des disciples d'Emmaüs que nous venons d'entendre a rappelé à ma mémoire un extrait particulièrement touchant de ce récit. À ce moment-là, les deux survivants ont déjà tout perdu. Et ils ont tout perdu jusqu'à la Bible, pourtant précieusement dissimulée dans leurs affaires. Et voici ce qu'écrit Piotr. « Ma mère fut très affectée par la perte de sa Bible. Tout au long des premières semaines de notre exil, elle avait répété à chaque occasion que sans sa Bible, elle se sentait comme si on avait violé le secret de son âme. Elle m'embrassait plus souvent qu'à l'accoutumée, me serrait contre sa poitrine, elle tremblait pour moi et, me regardant dans les yeux, elle murmurait. « Comment donc pourrais-je t'élever sans la Bible ? Ton père et Dieu sait où ? La Bible a brûlé. Que vais-je faire ? Car un garçon qui ne lit pas les saintes écritures depuis son enfance devient un démon. » Voyez, survivant au milieu d'un régime athée, voici que le dernier rempart intérieur contre l'abêtissement semble menacé. Si je t'oublie, Jérusalem, que ma langue colle à mon palais. Cette mère se dit, si nous avons perdu notre Bible, patrie de notre âme, la mémoire de notre cœur, alors oui, vraiment, nous courons le risque de devenir des moutons, à la fois sujets de Sa Majesté la peur et des faux bergers de l'autre, parqués au fond de nos maisons dans l'attente des prochaines directives. Un garçon qui ne lit pas les saintes écritures depuis son enfance devient un démon. Comme elle est belle, cette parole, c'est le cri magnifique d'une mère chrétienne qui sait combien la vérité rend libre et où celle-ci se trouve. Et dans le récit rapporté par saint Luc, on peut voir vraiment la parole de Dieu effectivement transformer ceux qui l'écoutent, et cela de deux façons. D'abord, la première, c'est que Jésus va nous le dire, la parole de Dieu, qu'il est et qu'il communique, cette parole rend intelligent. Et cela est une bonne nouvelle, en fait. Ça veut dire que la bêtise n'est pas incurable, qu'il y a un remède à notre ignorance. Tel est l'enseignement de Jésus. Les disciples ressassaient les tristes événements en boucle. Ils étaient pris d'une sorte de spirale de tristesse, l'un racontant à l'autre ce qu'il savait déjà et réciproquement. Rien ne ressemble plus à une chaîne d'information en continu qu'une chaîne d'information en continu. Bref, ils tournaient en rond et ils sont étonnés d'apprendre que Jésus leur pose la question sur la teneur des événements. « Tu es bien le seul étranger résidant à Jérusalem qui ignore les événements ces jours-ci » comme si les informations, les chiffres, le rabâchage des événements suffisaient à comprendre. Alors oui, c'est très beau, Jésus les écoute patiemment d'abord. La parole de Dieu est toujours patiente. Elle doit souvent consentir à prendre la parole après l'homme, à écouter d'abord ses inquiétudes, à écouter l'homme poser ses questions, faire ses commentaires. Oui, la parole de Dieu commence souvent par se taire. Et le Fils de Dieu, ensuite, doucement les remet en place. « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit. » Et Jésus, en les enseignant, va les rendre intelligents, les éclairer en leur communiquant la lumière de la foi qui confronte ici la loi et les prophéties aux événements dont il s'agit de découvrir qu'ils concourent tous dans leur déroulement à la manifestation du Verbe de Dieu, à ses souffrances et à sa justification. La parole de Dieu donne l'intelligence au sens étymologique du terme, puisqu'elle permet de intus legere, lire à l'intérieur des événements vécus. Vous voyez, avant d'aller plus loin, frères et sœurs bien-aimés, il faut s'arrêter à cette affirmation, qui est très sérieuse, puisque c'est Jésus qui l'apprend aux pèlerins, que la parole de Dieu nous rend intelligents, nous éclaire. Dans nos vies respectives, nombre de nos rencontres et de transmissions sont déterminées. On ne choisit pas le siècle dans lequel on vient au monde, on ne choisit pas son pays, sa culture, ses parents, sa famille, la plupart des maîtres et des professeurs, on les écoute comme ils viennent, successivement. Alors en entrant dans l'âge d'homme, on essaie de choisir ses maîtres, mais à ce moment-là, une part essentielle de notre personnalité s'est déjà forgée. Et en ce sens, il n'y a pas vraiment d'égalité. Certains reçoivent beaucoup dès leur plus jeune âge, et du meilleur, et d'autres peu, et du pire parfois. Mais ce qui est bon de repérer, c'est que devant Dieu, il y a cette égalité. Tout homme, du plus humble au plus docte, a la liberté de se laisser enseigner directement, si je puis dire, par le Seigneur, d'ouvrir la parole de Dieu, de choisir d'avoir Jésus pour maître. Et donc jusqu'au fond du dernier des goulags, dans le plus reculé des confinements, il est possible, que dis-je nécessaire, que dis-je salutaire, d'ouvrir la parole de Dieu pour gagner en intelligence, en hauteur, en distance de sécurité mentale, avec tous ces événements morbides et inquiétants rapportés en boucle pour qu'on ne sorte pas de l'enclos abêtissant sans autorisation. Mais quand on dit que la parole de Dieu rend intelligent, qu'elle permet de comprendre en vérité, il faut s'empresser d'ajouter la deuxième dimension que fait apparaître le récit évangélique. Parce que une première forme d'intelligence n'est pas suffisante. Les démons sont très intelligents. Ils connaissent comme personne la parole de Dieu. Mais la mère du petit Piotr dit qu'un enfant qui ne lit pas la Bible devient un démon. Parce que l'intelligence dont il s'agit ici, c'est d'abord la lumière de la foi, qui peut rester une lumière froide et ne plus être la foi si elle ne devient pas charité, c'est-à-dire intelligence du cœur. Et c'est bien ce que constatent les deux commensaux de Jésus à la fin de la soirée, après son départ. Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ? Chers amis, la deuxième fonction de la parole de Dieu, inséparable de la précédente qui consiste à éclairer, c'est de nous réchauffer le cœur. Comme le feu, la parole de Dieu n'éclaire pas sans réchauffer. Au milieu de la nuit et du froid sibérien, la mère de Piotr semble chercher sa Bible comme une lampe et aussi comme une chaufferette. L'antidote pour que son fils ne devienne pas un sauvageon, un enfant du système. La clé de la liberté intérieure au milieu des contraintes. Frères et sœurs bien-aimés, privés de l'Eucharistie depuis des semaines, il nous semble avoir été arrachés à la sainte table, privés que nous sommes de ne pouvoir reconnaître et confesser ensemble la présence réelle du ressuscité à la fraction du pain. Et oui, avant d'y revenir, sans plus tarder désormais, prions Jésus de nous ouvrir, là où nous sommes, les Écritures en les parcourant avec lui, qu'il illumine nos esprits sans intelligence, qu'il réchauffe nos cœurs froids ou seulement tièdes. En prenant la route avec lui, nous vivrons alors notre prochaine messe comme l'aboutissement d'un vrai pèlerinage et non pas la reprise d'une simple habitude. En prenant la route avec lui, nous nous apercevrons également que ce désir de communier n'est pas seulement notre fait, mais également le sien. Car Jésus fait semblant de s'éloigner pour éveiller notre désir. Mais le cœur du ressuscité brûle lui-même de rester avec nous. J'ai désiré d'un grand désir manger cette Pâque avec vous. Son amour est intact. Son attente, aussi fidèle que sa présence au tabernacle, Jésus aspire avec encore plus d'impatience, si je puis dire, que nous, la fin du confinement, pour nous donner son pardon et communier avec chacun de ses disciples. Amen.